l'actu des oubliés. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, cap sur le Bangladesh, pays peuplé de 170 millions de personnes et animé depuis juillet par une révolution comme il n'en avait jamais connue depuis son indépendance en 71. Dans les dernières heures du dimanche 4 août, des mains s'agglutinent contre les petites grilles des fourgons policiers à la peinture bleue défraîchie. Les images d'un pays en proie au chaos font le tour du monde. Difficile de distinguer ce qui du régime en place tient encore ou s'apprête à céder. D'un côté, la police, les forces paramilitaires et les partisans du régime n'ont plus de limites dans la violence. De l'autre, la révolte issue de la jeunesse est chaque jour plus vaste, plus déterminée et plus prompte à durcir le rapport de force après plusieurs semaines de contestations pacifiques. Nous sommes à la veille d'un bouleversement majeur pour le peuple bengali, dont la perspective semblait fantasme il y a encore quelques jours. La première raison de la colère, c'est le critère de sélection des fonctionnaires. Depuis l'indépendance en 1971, une règle un peu particulière prime sur les concours d'entrée à la fonction publique. Ainsi, une grande partie des agents de l'État est sélectionnée selon un système de discrimination positive en faveur des familles qui ont lutté pour l'indépendance du pays. Si votre grand-père ou votre grand-mère a participé à la lutte d'indépendance contre le Pakistan en 71, vous avez beaucoup plus de chances d'accéder à un poste de fonctionnaire qui vous assure un emploi à vie et un salaire correct. Jérémy Caudron, politologue spécialiste du Bangladesh, explique sur France Info le 26 juillet.
Le parti actuellement au pouvoir est celui qui a mis en place ce système des quotas dès après l'indépendance pour garantir une certaine unité nationale et remercier les civils qui avaient participé à la libération. Cela a eu pour effet de perpétuer un système étatique particulièrement verrouillé. Les étudiants avaient déjà fait un mouvement en 2018 qui avait abouti à l'abrogation de ces quotas. Il a été réintroduit en juin dernier, notamment parce que le parti en place, avec sa quatrième élection consécutive, s'est senti en confiance et avec une possibilité de favoriser électoralement ses partisans.
Avec le temps, le système des quotas a été dévoyé par une sorte de népotisme et de corruption. D'une volonté de remercier ceux et celles qui se sont battus pour la liberté, c'est devenu une machine à entretenir l'entre-soi d'une élite fermée et le clientélisme grâce auquel elle se maintient au pouvoir. C'est qu'au Bangladesh, énormément de jeunes diplômés ne trouvent pas de travail satisfaisant en lien avec leurs études. Le chômage concerne 18 millions de jeunes, soit près de 40% de cette population, et la fonction publique apparaît comme un Eldorado réservé. La situation n'est pas sans rappeler celle du Kenya ou du Nigeria que nous évoquions précédemment. Une jeunesse diplômée, éduquée, mais empêchée d'accéder à un épanouissement social par le phénomène néocolonial. Le capitalisme mondial a désigné le Bangladesh comme une source de textiles pas chers pour inonder le marché. Il entretient donc une structure économique enfermante pour des millions de jeunes. Une génération qui constate en outre que ce modèle alimente le désastre écologique et qui se sent impuissante à agir politiquement face à une élite corrompue et autoritaire. Comme l'écrit Romaric Godin dans Mediapart.
La crise sociale que traverse le Bangladesh est le symptôme d'une illusion, celle du développement par la croissance et le travail bon marché. Le pays est en réalité à la merci des besoins de rentabilité des grandes multinationales. La belle histoire que tente de raconter la Banque mondiale se mue désormais en une histoire plus sombre faite de misère, de désastres climatiques et de répression politique.
Car voilà 15 ans que le pays est dirigé d'une main de fer par Sheikh Hasina, fille aînée du fondateur du Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, héros de l'indépendance en 71 et premier dirigeant du pays. Après un coup d'état en 75 durant lequel son père est assassiné, Sheikh Hasina adopte depuis son exil en Inde une posture d'opposante pro-démocratie. Puis en 1981, elle revient et prend la tête du parti de son père, l'Awami League. Depuis 1991 et le début de la période républicaine, elle se livre à une féroce concurrence pour le pouvoir avec Khaleda Zia, autre figure républicaine du pays. Depuis 2009, Sheikh Hasina s'arrange pour remporter les élections systématiquement, fait mettre Khaleda Zia en prison et interdit la plupart des activités de son parti, le Bangladesh National Party, qu'elle considère comme une organisation terroriste. Depuis, la première ministre s'est attachée à mettre la main sur les institutions, notamment judiciaires. Elle fait enfermer des milliers de personnes et force des centaines d'autres à l'exil, en particulier à l'approche des élections. Lors des législatives de 2018, l'opposition parle ainsi de 15 000 arrestations, dénonce des bourrages d'urnes et l'absence d'agents électoraux. Durant cette période de 15 ans, plusieurs contestations d'ampleur s'élèvent contre l'autoritarisme de Cheikh Hasina. Dernière en date, celle des salariés du textile dont les grèves massives en novembre 2023 conduisent à des émeutes d'ampleur, à l'incendie d'usines et à une augmentation de salaire de 56%, certes loin des attentes des femmes en lutte. Dans le même temps, les élections de janvier 2024 se profilent et des dizaines de milliers de personnes prennent la rue à nouveau pour demander la fin du musellement des forces politiques alternatives. Comme en 2014, le parti d'opposition choisit finalement de boycotter l'élection. La première ministre est donc certaine de rester en poste et le peuple bangladais n'a aucune possibilité de choisir quelque alternance que ce soit à son autoritarisme. Revenons à 2024. En juin, la réintroduction de la discrimination positive aux postes de fonctionnaires met donc le feu aux poudres. Même si c'est officiellement la Haute Cour de justice qui rétablit la mesure, une coalition étudiante se met en place pour s'adresser au gouvernement et exiger la fin définitive des quotas. Le mouvement débute réellement le 1er juillet, avec des débrayages dans toutes les universités et les lycées des grandes villes. La jeunesse bengali déferle sur les avenues, s'asseyant pour bloquer les flux comme moyen de faire entendre ses revendications. Les cortèges gonflent et le mouvement s'étend aux petites villes du pays et à d'autres catégories de la société. Or, Cheikh Hasina martèle que rien ne justifierait une modification de la loi et que les protestataires perdent leur temps. Le 12 juillet, elle traite même les contestataires de Razakar, mot que l'on peut traduire par « collabo », qui désigne les traîtres à la nation qui collaboraient avec l'armée d'occupation pakistanaise lors de la guerre d'indépendance. Avec cette accusation, elle semble presque s'autoriser elle-même à enclencher une première phase de répression. Et en effet, dans les jours qui suivent, les premières lacrymogènes tonnent dans le ciel bengali et les balles en caoutchouc ricochent contre les corps et les murs. Pourtant, ça n'est pas suffisant. À Dhaka, les barrages policiers sont débordés et la ville résonne joyeusement de cette résistance pacifique. Après la police, le pouvoir lance dans la bataille ses partisans de la Chhatra League, l'organisation étudiante pro-gouvernement. Armés de bâtons et de barres de fer, ils attaquent les cortèges et même les bases arrières du mouvement sur les campus. Le 15 juillet, plusieurs centaines de personnes sont blessées et soignées à l'hôpital. Le 16, 6 premiers décès surviennent, 3 à Chittagong, 2 à Dhaka et le dernier à Rangpur. Le quotidien Daily Star accuse le gouvernement d'être directement responsable de la violence et d'avoir laissé faire la Chhatra League, profitant du désordre pour tenter de silencier et d'étouffer le mouvement. Les faits ne lui donnent pas tort. Le gouvernement fait fermer toutes les universités et les écoles. Il déploie en outre les forces paramilitaires du bataillon d'action rapide dans les 5 plus grandes villes pour soi-disant mettre fin à la violence. Cheikh Hasina elle-même appelle au calme et condamne les meurtres en promettant que les coupables seront traduits en justice. Mais voilà, sa parole n'a plus crédit. C'est comme si, comme le dit une étudiante, à partir du moment où la première ministre avait décidé d'utiliser la violence, elle avait perdu son droit à gouverner. Abdullah Rouel, étudiant en lutte de la première heure, explique à Mediapart.
Ce sont les vidéos du premier étudiant mort sous les balles de la police, Abou Saïd, qui ont mis le feu aux poudres. Des citoyens se sont joints en masse au mouvement qui s'est répandu autour du campus puis dans tout le pays pour exiger la démission de la dictatrice Hasina. Insan hoya lab ki jodi na thake insaf ashaful makhlukat khodai koira dek maf chokher samne amar maer chhera jama rakhe shakhi matite ami bohu diner nirbar.
Dès ce mardi soir, les étudiantes et étudiants refusent de quitter les salles de classe et les halls des universités. Le lendemain, les lycées sont eux aussi bloqués et occupés. Sur la quasi-totalité des campus publics, des barricades sont installées aux lieux stratégiques, au prix parfois de sévères affrontements. Le recteur de l'université de Jahangirnagar tente de la fermer de force. Les bâtiments administratifs sont alors pris d'assaut et le malheureux se retrouve enfermé à l'intérieur. Le même jour, les funérailles organisées pour les étudiants tués sont attaquées par la police anti-émeute. Le pouvoir ne se cache plus. Dorénavant, il utilisera toute la violence nécessaire pour faire taire ceux et celles qui luttent. Une étudiante clame dans une marche.
Nous sommes en colère, nous sommes très en colère et nous sommes frustrés. Nous voulons un gouvernement dans lequel nous pouvons avoir confiance. Nous voulons des médias qui sont au service du pays et pas seulement au service du gouvernement.
Le jeudi 18, les manifestations reprennent de plus belle et cette fois, le pacifisme n'est plus de mise. Armés de bâtons pour se protéger des partisans loyalistes, les étudiantes et étudiants quittent leur campus occupé pour rejoindre le cœur des villes, déterminés à faire monter d'un cran le rapport de force. La foule en colère défile en chantant « Abat la dictatrice » et force les barrages policiers, bien souvent incapables de contenir la rage qui se déchaîne contre les symboles du régime. Les peintures à l'effigie de Cheikh Hasina sont dégradées, plusieurs bâtiments gouvernementaux sont incendiés, ainsi qu'une station de métro et des dizaines de postes de police, une cinquantaine à l'échelle du pays. Car la colère se généralise partout. Le 18, 26 des 64 districts du pays sont concernés par les marches et les émeutes. Le lendemain, ce chiffre monte à 47. À Dakar, les contestataires parviennent à mettre en fuite des dizaines de policiers qui s'en vont se réfugier dans le siège de la télévision d'État. Le bâtiment est cerné puis incendié et le média à la botte du régime cesse d'émettre quelque temps. À l'université canadienne, les affrontements sont également intenses. Une soixantaine de policiers se réfugient sur le toit. Bloqués, ils sont finalement secourus par hélicoptère. La radicalisation rapide et inattendue de la contestation étonne tout le monde. Dans les facs, les ligues fascistes au service du pouvoir sont expulsées et leurs locaux sont par endroits détruits. À Rangpur, la mort d'un étudiant provoque la colère et la résidence du recteur est incendiée. Dépassée par la riposte, les forces du régime répriment à tout va. Au moins 25 personnes sont tuées et plus de 700 blessées. N'ayant d'alternative à la défaite que l'escalade, Cheikh Hasina impose une coupure quasi totale d'internet dans le pays. Les réseaux sociaux inaccessibles, le mouvement étudiant qui utilisait principalement Facebook et WhatsApp pour communiquer, se retrouve donc dans une position inédite. La dynamique est pourtant de son côté. C'est la première fois depuis l'indépendance du pays qu'un mouvement de contestation se poursuit alors qu'un tel niveau de répression est déployé. Le lendemain, tout rassemblement est proscrit dans la capitale, et pourtant, des dizaines de milliers de personnes outrepassent spontanément l'interdiction. Le soir même, c'est une prison qui est prise d'assaut par 12 000 personnes à Narsingdi, ville moyenne du centre du pays, provoquant l'évasion de 826 prisonniers. Et par la même occasion, trois casernes militaires sont incendiées et des armes sont saisies par les émeutiers et les émeutières. Dans les jours qui suivent, certaines sources affirment que la ville échappe au contrôle gouvernemental. আসমানে লাল মেঘ ভাসতে থাক আমার এই জীবনে মরণ আসতে থাক স্লোগান ধরি আমি কণ্ঠস্বর ভাঙতে থাক আমার ছাতিতে গুলির দাগ গুনতে থাক তোকে চোখ কই চোখ থাকলে হুশ কই রক্তাক্ত রাজপথ আইন আছে বিচার কই হাত ভরা রক্তে পরাধীন অঙ্গে কোন মাদার চোখ গুলি মারে আমারে আমারই বঙ্গে নূর হোসেন ঘরে ঘরে কংক্রিটের নগরে জানের মায়া ভুলে গিয়া মৃত্যু আপনার পাঁচরে শকুন যেমনে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ গিলা খায় স্বাধীনতার গন্ধ আমারেও গিলা খায় Face à la menace révolutionnaire, Cheikh Hasina annonce un couvre-feu de 24 heures sur 24 et le déploiement de l'armée dans l'ensemble du pays. Autorisation est donnée à la police de tirer à vue. Dans la nuit, des dizaines de personnes sont enlevées parmi les plus en vue du mouvement étudiant. Certaines sont torturées pour les forcer à appeler à la fin des manifestations. Nous sommes à l'aube du 20 juillet, et le gouvernement ne veut pas voir une seule personne dehors, condition nécessaire à son maintien au pouvoir. Les rues de Dakar sont anormalement vides, alors que les véhicules blindés de l'armée sont stratégiquement disposés. L'attitude que celle-ci adoptera est une problématique nouvelle et incertaine. Pourtant, là encore, le peuple déferle. En ce samedi, les manifestations sont particulièrement massives. Il est flagrant que de nouveaux pans de la population rejoignent la contestation, inspirés par la jeunesse et convaincus qu'un nouveau Bangladesh est possible. Inévitablement, les mêmes scènes se reproduisent. La foule attaque tous les symboles du régime. Le bâtiment du gouvernement local de Dhaka est incendié, tandis que les premiers pillages de grands magasins ou de banques sont recensés. Face au chaos, la Cour suprême revient sur sa décision. Le système des quotas pour les enfants des Freedom Fighters est réduit à 5%. 1% des postes sera réservé aux minorités ethniques et un autre aux personnes transgenres et aux personnes atteintes d'un handicap. Le reste, soit 93%, sera attribué au mérite, c'est-à-dire par des concours. Mais c'est trop tard, la question des quotas est depuis longtemps dépassée, en particulier depuis le 16 juillet et les premiers assassinats. Depuis que certaines d'entre elles sont tombées sous les balles de la police, depuis que les arrestations arbitraires pleuvent, les personnes en lutte exigent la démission de Cheikh Hasina, du gouvernement, des recteurs d'universités et des préfets de police. Elles réclament l'interdiction de toute organisation étudiante en lien avec un parti politique. Elles exigent la libération de toutes leurs camarades arrêtés, enlevés, la justice pour les personnes assassinées et un dédommagement financier pour les familles des victimes. C'est même l'ensemble du système politique qui est visé. En 3 semaines, la légitimité de ce régime vient de disparaître. Exemple frappant, trois coordinateurs des collectifs étudiants auraient rencontré le gouvernement avec 8 revendications à satisfaire. Le soir même, ils sont désavoués par le reste du mouvement qui estime que le gouvernement n'est pas légitime à négocier et que sa démission est un préalable à tout dialogue.
Il ne s'agit plus seulement de quotas d'emploi. Nous voulons que les futures générations puissent vivre librement.
Déclare Chakawat, une jeune manifestante rencontrée par l'AFP à Dakar. Pour autant, la coalition suspend les manifestations pour 48 heures, puis pour 48 heures supplémentaires. S'ouvre alors une étrange semaine de trêve. Naïd Islam, figure du mouvement, est enlevé et tabassé par des hommes en civil. Depuis sa chambre d'hôpital, il affirme
« Je ne veux pas de réforme au prix de tant de sang, de tant de meurtres et de tant de dégâts. Nous qui coordonnons le mouvement, nous craignons pour nos vies. Plusieurs de mes collègues ont disparu. »
On tente aussi de faire un premier bilan de la répression. Si le chiffre de 200 décès est très certainement atteint, certaines sources parlent d'un millier de morts. Mais les hôpitaux ont interdiction de dévoiler les listes des décès et la police ne rend pas tous les corps aux familles. Malgré les coupures d'internet qui perdurent, un site internet est mis en place par la résistance pour répertorier les martyrs de la révolte et leur donner un visage. La première ministre Sheikh Hasina, elle, déclare « Sheikh Hasina ne fuit jamais ». Pour le pouvoir, il n'est pas question d'abandonner sa vaste opération de pacification. Autrement dit, de s'assurer que la normalité s'impose à nouveau au pays. Il se raconte que la police aurait inculpé 61 000 personnes pour des faits de violence, chiffre faramineux faisant craindre des vagues d'arrestations massives en réponse aux 253 commissariats vandalisés en l'espace d'une semaine. Or, si quelque chose semble s'être apaisé, les protestataires n'en ont pas fini, et plutôt se préparent à la suite. Dès le 21, l'Alliance des étudiants des universités privées du Bangladesh appelle à se préparer à une révolte de masse, sous le slogan « Now or never, do or die », maintenant ou jamais, fais-le ou meurs. Swap captures the essence of protest. The focus on unity, resilience, and the fight for justice and freedom in Bangladesh. Alors qu'Internet revient progressivement, la résistance s'active sur la toile. Les sites de la Banque centrale, de la Première ministre, de la Police nationale, du parti au pouvoir ou encore de la Ligue Chatra sont hackés par un groupe appelé The Resistance. À la place de leur page habituelle, un texte indique « Arrêtez de tuer les étudiants et les étudiantes, ce ne sont plus des manifestations, c'est désormais une guerre ». La revendication majeure est désormais une amnistie générale pour toutes les personnes en lutte. Dès le 28 juillet, la coalition Students Against Discrimination menace ainsi de reprendre les manifestations si les prisonniers politiques ne sont pas libérés. Les marches reprennent timidement, mais chaque acte répressif, chaque violence, chaque assassinat semble jeter à nouveau plus de monde dans les rues. Le 2 puis le 3 août, la mobilisation est à nouveau d'ampleur égale à celle de juillet. Étudiants et étudiantes reprennent le contrôle de leurs universités, mettent en fuite les forces du régime qui se cantonnent à protéger commissariats et sites stratégiques. C'est alors que la coalition choisit de relancer pleinement la lutte et d'appeler clairement à la révolution. L'un de ses porte-parole, Asif Mahmoud, poste sur Facebook « Soyez prêts à vous battre, préparez vos bâtons de bambou et libérez le Bangladesh ». De son côté, le parti au pouvoir jette dans la rue ses partisans. Son secrétaire général Obaidul Kader appelle les Bangladais à se rassembler dans tous les quartiers de Dhaka et dans tous les districts du pays. La capitale se transforme en champ de bataille. Le dimanche 4 août, loyalistes et révolutionnaires s'affrontent à couteaux tirés. Les rues s'embrasent de barricades et de véhicules incendiés. Du tribunal de Dhaka au domicile des ministres et députés de la Awami League, tout signe d'appartenance au régime est envahi, pillé, incendié, tandis que la police tire à balles réelles sans discernement. Près d'une centaine de personnes décèdent lors des affrontements, dont 14 policiers et plus d'une dizaine de membres du parti au pouvoir. Non seulement c'est le bilan le plus lourd en une seule journée depuis le début de la révolution, mais pour la première fois, les décès sont nombreux aussi dans les rangs du régime. À entendre les rumeurs de défection au sein de la police, la peur semble enfin changer de camp. Quant à l'armée, elle critique ouvertement la violence du régime. Des officiers à la retraite appellent à retirer les troupes des rues, voire carrément pour certains à la démission de Sheikh Hasina. Sur le terrain, les soldats refusent globalement d'ouvrir le feu. Il semble même qu'à certaines occasions, ils se soient postés en travers du chemin de la police pour protéger manifestants et manifestantes. « rien ne semble pouvoir stopper la révolution. Lundi 5 août, peu avant 15h, le Ganababan, palais des chefs de gouvernement bangladais, est pris d'assaut par des milliers de personnes au beau milieu d'une marche réunissant des centaines de milliers de personnes dans la capitale. Chiffre estimé à 400 000 par le quotidien Business Standard. Les images montrent le bâtiment inondé de monde et de couleurs, les drapeaux verts aux points rouges posés sur le fronton, flottant dans les airs. Un énorme drapeau palestinien est même posé en étendard. Peu avant l'arrivée de la foule devant le palais, un hélicoptère s'est envolé. Dans Dhaka et les autres villes du pays, la rumeur enfle peu à peu. Privées d'internet, certaines personnes appellent directement chez elles pour savoir ce qui se dit en direct à la télévision. Depuis les maisons et les postes de radio sortis directement dans les rues, les nouvelles parviennent à la foule. Une clameur de joie mêlée aux larmes de soulagement s'élève alors. Le général Waqar Uzzaman, chef de l'armée, annonce la démission de Sheikh Hasina, sa fuite en Inde et la fin du couvre-feu. Il déclare
« Le pays traverse actuellement une période de révolution. S'il vous plaît, revenez à des voies non violentes et pacifiques. Le pays a beaucoup souffert, l'économie a été touchée, de nombreuses personnes ont été tuées. Il est temps de mettre fin à la violence. »
La détermination se meut en liesse. Des marées humaines déferlent dans les rues déjà pleines. La fuite de Sheikh Hasina vers l'Inde était espérée, mais inattendue. N'avait-elle pas dit « Sheikh Hasina ne fuit jamais » Quelques phrases parviennent de la dictatrice déchue. Elle regrette de ne pas avoir eu le temps de rédiger un discours. Des mots qui se perdent dans les rires et la célébration. Car l'armée laisse libre cours à la joie populaire, célèbre même avec le peuple. Par endroits, les militaires décrochent eux-mêmes les portraits de la première ministre. À Dakar, la statue du père de Sheikh Hasina, pourtant héros national, est escaladée et déboulonnée à la hache sous le regard de soldats hagards. On ne sait pas trop qui, du peuple qui a envahi le palais, des généraux qui ont fait pression ou de la base de l'État qui a lâché la tête, a fait tomber le régime. Et peu importe. La police, elle, disparaît littéralement. Le syndicat policier annonce déclencher une grève illimitée jusqu'à ce que la sécurité des policiers soit assurée. Partout dans le pays, les commissariats sont désertés, parfois pillés ou occupés. Akbar Oudin Hamed, professeur à l'Alliance française, s'exclame.
Le peuple est complètement déchaîné. Malgré le couvre-feu, il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de gens en ce moment à Dakar. Les gens sont extrêmement heureux. Ils font la fête sur les voitures blindées de l'armée. Voilà, c'est la joie, partout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le printemps bengali. C'est une véritable révolution. Parce que ça ne touche pas que la capitale, mais l'ensemble du Bangladesh. Oui, ça a coûté beaucoup de vies humaines. Hier et encore ce matin, il y avait des batailles, ici et là. Mais là, les gens sont vraiment très contents.
Les gens ont reconquis leur pays. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Sheikh Hasina est hors d'état de nuire. Peu importe toute la puissance qu'elle détenait, elle a été destituée par la volonté du peuple. Quelques heures plus tard, le président annonce la libération des figures de l'opposition et de toutes les personnes arrêtées lors de manifestations. L'armée assure que tous les assassinats feront l'objet d'enquêtes, de condamnations judiciaires et de dédommagements financiers. Pour la coalition étudiante, toutefois, cette victoire ne met pas fin à la lutte. Car si le général promet la formation d'un gouvernement intérimaire, il y a de fortes chances pour que l'armée, le parti conservateur BNP et le parti islamiste Jamaat se partagent les postes. Asheke Hake, politologue bangladais qui vit en exil en Suède, partage à RFI son ressenti ambivalent.
Tout le monde sur les réseaux crie à l'indépendance, mais d'un autre côté, le chef de l'armée est en train de discuter avec d'autres partis politiques. Ce n'est pas vraiment ce à quoi les gens s'attendaient. Donc oui, je suis très partagée sur ce qui se passe. Mais je veux garder espoir. Les vieux partis sont conscients de l'énorme potentiel de la colère et de la puissance de la jeunesse, de cette révolution de la génération Z. Je veux croire qu'ils diront non. Le prochain pas va être différent. On va faire une importante réforme sociétale qui va changer le pays. Mais si cela vient des autres partis, en particulier du BNP, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est du pareil au même.
La jeunesse, dès les jours suivants, maintient la pression. D'une part, les marches ne s'interrompent pas. Il ne s'agit pas seulement de virer la première ministre, mais de faire le ménage dans toutes les institutions. Et il ne faut que 24 heures au collectif étudiant pour obtenir une autre victoire. Le président accepte de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections. D'autre part, la génération Z exprime haut et fort son refus de laisser l'armée prendre le pouvoir, même provisoirement. À l'image de cette étudiante anonyme de Brahman Baria sur RFI.
Le pouvoir doit être transféré aux citoyennes et aux étudiants révolutionnaires. Aucun autre gouvernement ne sera accepté. Les jeunes ne vont pas quitter la rue avant que la victoire finale ne soit atteinte. Nous voulons que toutes les organisations politiques, tous les partis impliqués dans les meurtres des manifestants affrontent la justice. L'armée veut peut-être prendre le pouvoir, mais le chef de l'armée est un allié de Sheikh Hasina, donc nous ne l'accepterons pas. Nous voulons que les dirigeants de l'armée soient neutres.
À la table des négociations face à l'armée, la coalition étudiante exige la mise en place d'un gouvernement provisoire composé de personnalités de la société civile, de personnes issues du monde étudiant, d'organisations de droits humains et de représentantes des groupes minoritaires. Le spécialiste de l'Asie du Sud-Est, Jean-Luc Racine, raconte à RTS. Le mouvement étudiant pose ses conditions à l'armée, en disant qu'il ne veut pas d'un gouvernement sous contrôle des militaires, et encore moins d'un gouvernement militaire. Pour être le conseiller ou le leader du gouvernement de transition, il avance le nom du prix Nobel de la paix bangladais, Muhammad Yunus, célèbre pour avoir inventé le microcrédit. 48 heures après la formation de ce gouvernement, les étudiantes et étudiants sont de retour dans les rues de Dhaka pour exiger la démission du président de la Cour suprême, Obaidul Hassan, toujours en poste alors qu'il s'agit d'un proche de l'ancienne première ministre. Naïd Islam déclare
« La chute de Sheikh Hasina est une victoire partielle. L'enjeu, c'est de complètement restructurer notre pays et les institutions de l'État, le Parlement, la Cour suprême, les forces de l'ordre et d'éradiquer la corruption dans tous les ministères. »
Obaidul Hassan donne sa démission le lendemain. À Dhaka semble régner depuis le 5 août un parfum de liberté. D'abord, la parole politique s'est libérée et l'heure est désormais à la réconciliation. Ainsi, le monde étudiant tente d'apaiser les tensions dans le pays, en particulier envers la minorité hindoue qui représente 10% de la population du Bangladesh. Sheikh Hasina ayant été très proche de l'Inde, elle fut globalement soutenue par la communauté hindoue qui, depuis sa chute, est victime de persécutions et de discriminations. Aussi, la jeunesse bangladaise se porte volontaire pour veiller à la sécurité de cette minorité et de ses lieux de culte. Dans les premières semaines, il faut aussi pallier à l'absence de la police qui n'ose se montrer de peur de représailles. D'ailleurs, 450 des 600 commissariats du pays sont totalement hors d'état. C'est ainsi qu'étudiantes et étudiants se mettent à faire la circulation dans la capitale, en particulier en arrêtant et en fouillant les voitures des personnes les plus aisées ou des fonctionnaires d'État pour vérifier qu'elles ne transportent pas illégalement de grosses quantités d'argent. Une manière de lutter contre la corruption et la fraude fiscale. C'est aussi dans l'esprit d'une réconciliation que les personnes mobilisées réclament l'ouverture des archives de la police et des services de renseignement, afin que des recherches et des enquêtes puissent être lancées autour des disparitions forcées menées sous le régime de Sheikh Hasina. Enfin, il est étonnant, voire amusant, de constater que des équipes se constituent pour nettoyer le palais envahi le 5 août, et de lire les annonces passées sur les réseaux pour demander de ramener le mobilier pillé ce jour-là. Plus loin, des graffeuses s'affairent à peindre des fresques sur les murs tagués. Et elles expliquent.
Durant les manifestations, nous avions recouvert les murs d'insultes à l'égard de Sheikh Hasina. Elle est partie, alors nous les remplaçons par des messages d'unité du peuple et pour la démocratie.
For the language we love, for which we strive. This is our fight, this is our land. Together we rise, together we stand. Rise up, Dhaka speaks, hear the people's cry. Bangladesh, we will stop till we reach the sky. No more lies, no more stolen dreams.
C'était l'actu des oubliés. Merci de nous avoir écoutés. Les sources pour cet épisode sont retrouvables sur notre audioblog Arte, où tous les anciens épisodes sont également écoutables et téléchargeables.
This is our land, our right to be free. This rap captures the essence of protest, with a focus on unity, resilience, and the fight for justice and freedom in Bangladesh. This rap captures the essence of protest, with a focus on unity, resilience, and the fight for justice and freedom in Bangladesh.
En musique, vous avez d'abord pu écouter We Want Justice de Savage Mind et Jobab de Frivaz. Ensuite, vous avez entendu Restive de Shadi Notar Gondo. Et en ce moment, Rise Up Bangladesh de Slick Tap. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode sur le Nigeria. Prenez soin de vous et belle semaine.